Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on est encore réunis pour étudier la parole, pour entendre la parole, et nous allons le faire pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans les psaumes. On va regarder les psaumes 13, et on va un peu décortiquer ces psaumes, car ça ne suffit pas de lire, mais il faut l'étudier, il faut en retirer les enseignements dont nous avons besoin. Hein. Donc nous allons faire tout ça ce matin par la grâce de Dieu. Et ces psaumes, il y a le titre, c'est « La bonté de Dieu ». La bonté de Dieu. On va le lire et ensuite on va voir. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà. Voilà ce que ce psaume nous dit, la bonté de l'Éternel. Ce psaume, il est partagé en trois portions. Regardons les versets 1 à 3. Et il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Voilà, ici, c'est le centre de ces trois versets, c'est quoi? C'est jusqu'à quand? Hein? Ça nous est bien arrivé des fois, n'est-ce pas? De se tourner vers le Seigneur et dire, mais jusqu'à quand? Hein? Cette peine, c'est un cri du cœur. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je veux vivre cette difficulté? Jusqu'à quand je serai dans les peines? Jusqu'à quand? C'est vraiment le cri, même des chrétiens, hein? Ça m'est arrivé, hein. Je ne sais pas vous, hein. Jusqu'à quand? J'ai fait tout pour. Et pourtant, il y a toutes ces peines, toutes ces souffrances. Il y a des doutes, il y a du découragement, hein. Et en plus, elle dit, mais jusqu'à quand? Et le verset 2, il nous clarifie, jusqu'à quand? C'est comme si on dit, Dieu, tu m'oublies. Dieu, tu m'oublies, il refuse de me voir, il dit au verset 2. Hein? Jusqu'à quand te cacheras-tu ta face? Tu refuses de me voir. Regarde-moi, j'ai des soucis dans mon cœur, j'ai des peines, j'ai des souffrances, mais je ne vois rien venir de toi. Jusqu'à quand? C'est vrai que si les psaumes ils s'arrêtent là, c'est vraiment de la déprime, n'est-ce pas? C'est de la déprime, mais de la déprime et de la désolation. Mais les psaumes, ils continuent, versets 4 et 5. Et il dit, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Voilà, il dit, jusqu'à quand toutes ces peines et tout ça, tu m'as oublié et tout ça. Et une fois qu'on a dit ces choses-là, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il y a la supplication. On supplie le Seigneur d'intervenir. Il dit, regarde, réponds-moi. Parce qu'au verset 2, on a vu que, jusqu'à quand te cacheras-tu? Réponds-moi, il lui dit. Éclaire mes yeux. Fais quelque chose. Vous savez, c'est déjà bien que, ici, David, il voit que toutes les misères sont sur lui, mais c'est bien que il sait vers qui se tourner. Il se tourne vers qui? Ben, vers Dieu. Parce que c'est le seul. C'est la seule solution. Au lieu de regarder à nous-mêmes, il se tourne vers Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'il y a ces moments-là, on est, comme on dit, on est perdu. Hein. Mais heureusement, on a le Seigneur. Hein, d'ailleurs, il y a ce beau cantique. Hein. Tourne les yeux vers le Seigneur. Lorsqu'on a de tous ces soucis qui arrivent, hein, des moments de découragement, de déprime, on a une seule chose à faire, c'est de se tourner vers le Seigneur. Hein. Et c'est les souhaits que j'ai fait pour moi et pour vous aussi, lorsqu'il y a ces moments comme ça. Parce que les déprimes, ils sont là dans la vie, ils sont là. Hein, pour chacun et chacune. Hein. Les peines, les souffrances, ils arrivent. Hein, mais lorsqu'on est dans ces moments-là, ne regardons pas nous-mêmes. Tournons les yeux vers le Seigneur. Car il est là pour ça. Hein. À nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Mais nous avons le Seigneur. Pourquoi? Car le Seigneur, il est attentif à la détresse de ses enfants. Des fois, on ne le voit pas, mais le Seigneur, il voit. Mais il veut voir aussi jusqu'à quand nous ne voulons pas nous tourner vers lui. Jusqu'à quand voulons-nous rechercher la force de nous en sortir à nous-mêmes? Si on regarde à nous-mêmes, il n'y a aucune force. Mais le Seigneur, il dit, je vais voir jusqu'à quand tu te pointes sur toi-même. Et automatiquement, c'est le seul qui peut nous donner des supplications. Et c'est là que, après les souffrants, après toutes ces choses-là, jusqu'à quand, Seigneur, j'ai ça et ça et ça, il y a la supplication qui intervient. Et c'est vrai qu'il y a cette troisième partie du psaume, et que c'est la troisième partie que nous allons étudier. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse et qu'on voit vraiment tout ce que le Seigneur il peut nous apporter dans les moments difficiles. Mais encore une fois, pour que le Seigneur il intervienne, il faut qu'on se tourne vers lui. Et le verset 7, le verset 6, c'est le verset que je vous exhorte à l'apprendre par cœur, parce que c'est un verset que chacun de nous, il doit répéter chaque fois qu'il se trouve dans ces situations-là, dans ces souvenirs-là. Et c'est alors que nous devons répéter le verset 6. Pourquoi? Parce que le verset 6, c'est l'assurance et la certitude que nous avons en Dieu. C'est ça. Il dit quoi ce verset? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et ça, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur. Moment difficile, on demande à Dieu jusqu'à quand. On le prie, interviens, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et au verset 6, moi, j'ai confiance dans ta bonté. C'est ça notre cheminement. Ne croyons pas que nous avons en nous-mêmes cette force. Mais cette force, il est en Dieu. Et comme je vous ai dit, nous allons voir chaque parole de ces versets, parce que dans chaque parole de ces versets, il y a des ressources pour chacun de nous. Il y a cette assurance que nous avons en Dieu et cette certitude que Dieu, il va intervenir. Il ne peut pas faire autrement. Mais encore une fois, il faut lui demander. Il faut lui demander. Et si on demande cela à Dieu, ça veut dire que, ayant regardé à nous-mêmes, nous avons remarqué que nous n'avons rien et que nous ne pouvons rien. C'est un peu comme le salut. Hein? On sait qu'on est des pécheurs, hein? Mais on nous regarde. Mais je ne peux rien faire, moi. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi les premiers mots de ce verset 6, c'est « Moi, j'ai confiance ». J'aime bien, il y a ce « moi ». Hein, si vous voulez, c'est « moi », ce n'est pas de l'égocentrisme, comme, dit, hein, comme on dit, hein, spirituel de la part de David. « Ah, moi, je suis David, je suis le roi ». Non, il a dit « lui, même s'il est le roi, même s'il a tout à la disposition, il dit quoi ?» Moi, j'ai rien moi-même, mais j'ai confiance. J'ai confiance dans le Seigneur. Hein? Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre propre vie. Encore une fois, on est découragé, on est déprimé, on essaie de faire tout, mais on se dit, à moi, il n'y a rien. C'est un peu les cantiques encore, lorsque nous disons, tel que je suis, j'ai rien à moi. Mais je me tourne vers toi parce que je sais que en toi il y a tout ce dont j'ai besoin. La confiance, avoir confiance, c'est quoi? C'est avoir foi. Et confiance et foi, c'est le même mot en grec, hein? Pistis, c'est tous les deux. Et avoir foi, confiance, je regardais en dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir avoir mettre tout notre espoir en quelqu'un. En quelqu'un, pas en nous-mêmes, mais en quelqu'un. Et vous savez, lorsqu'on se dit « j'ai confiance dans le Seigneur », c'est comme si on enlève tout obstacle à notre vie. Pourquoi? Parce que la vie que nous vivons, elle est pleine d'obstacles. Il y a des tout petits obstacles, mais il y a aussi des grands obstacles. Et des fois, nous-mêmes, nous disons, c'est des petits obstacles, je ne me tourne pas vers le Seigneur. C'est dans les petites choses qu'il faut voir si nous avons vraiment la foi dans le Seigneur. Et pas que dans les grandes choses. Hein? Et c'est, je vous ai donné cette expérience de ma propre vie, hein, pour le permis de conduire, hein. Je n'ai jamais prié le Seigneur. Je me disais, il ne va pas se déranger, je ne vais pas déranger le Seigneur pour lui permettre de conduire. Je l'ai raté 4 fois. Et c'est là que le pasteur m'a dit, tu as prié le Seigneur? Je dis non, je dis, je ne vais pas le déranger pour ça. Mais prie le Seigneur. Mais attention, ce n'est pas que le Seigneur il a conduit à ma place. Hein? Mais il a adouci les cœurs, disons aussi. Hein. Parce que la 5e fois, je me suis assis. Vous savez, la première chose qu'on doit faire, c'est mettre en place l'électroviseur. Et je ne l'ai pas fait. Là, déjà, j'aurais eu quelqu'un qui n'aurait pas utilisé la grâce. Descends. Voilà pourquoi je vous dis, il faut vraiment se dire, j'ai confiance dans le Seigneur. La confiance, un peu comme les enfants. Hein. Les enfants, ils ont confiance, papa et maman. Hein. S'ils se trouvent dans un endroit, on le dit saute. Mais l'enfant, il saute. Hein. Pourquoi il saute? Parce qu'il sait que papa et maman sont en bas. Mais si c'est moi qui dis à un autre enfant, allez, saute, il ne saute pas. Hein. Parce qu'il a confiance. Il a confiance. Et c'est ça qui est très important dans notre propre vie. Vous connaissez cette autre histoire de celui qui il faisait en montagne. Et à un certain moment, il y avait un abîme, paf, il est tombé. Et alors, il avait un morceau de une branche et il s'y accrochait. Alors, il criait, « Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un !» à la montagne. À un certain moment, il a dit, « Mon fils, qui est là? Qui est là ?» Il a dit, « C'est moi, c'est Dieu. » Il faut que tu m'aides. D'accord, je t'aide. Lâche la branche. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Et c'est ça que les enfants, ils font ça. Hein. Pour papa et maman, ils savent qu'ils sont là. Et nous devons avoir la même assurance, la même confiance en Dieu, que lorsqu'il y a des moments difficiles, il intervient. Il est notre Père. Il est notre Père pour intervenir dans nos besoins, mais il est notre Père aussi pour nous châtier quand nous ne voulons pas faire les choses qu'il nous a dit de faire. Hein, il nous a dit que Dieu, il est comme un Père. Il châtie ses enfants. Et des fois, il fait mal. Hein. Mais nous lui disons, Seigneur, enlève cela de moi. Arrache même. Ça peut me faire mal, mais je sais que chaque fois que tu interviens, c'est pour mon bien. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une grande confiance en Dieu. Et il continue ce verset, et il dit, « Moi, j'ai confiance en quoi ? En ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. » Avez-vous déjà entendu dire à quelqu'un, « Moi, j'ai de la confiance qu'en moi-même. » Je me fie qu'à moi-même. Ça, c'est une pensée simplement, comme on dit, hein, c'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme, que c'est la philosophie qui met l'homme au centre. Hein, l'homme d'abord. Et c'est bien de penser à nous. Mais la seule difficulté que j'ai en tant que chrétien, ça, c'est que on pense trop à l'homme, mais on laisse de côté Dieu. C'est ça la difficulté dans ces choses-là. Et en tant que chrétien, encore une fois, notre seul espoir, c'est Dieu, pas l'homme. Que peut-il me faire, l'homme? Le Seigneur, il a dit, hein, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Voilà pourquoi en ta bonté, la bonté c'est dans hébreu c'est le mot hesed, qui signifie plusieurs, il a plusieurs significations, ça veut dire amour, faveur, mais ça veut dire aussi miséricorde, et c'est un mot qu'on trouve 250 fois dans l'Ancien Testament, juste dans l'Ancien Testament. Et aussi, il y a dans les psaumes 136, il est utilisé 26 fois. Vous savez, c'est les psaumes où on répète et à un certain moment, tout le monde y répond, car ta miséricorde dure toujours. 26 fois. Imaginez-vous, là, et ça, c'est, il parle de la bonté de Dieu. La miséricorde, c'est quoi? C'est pas la grâce, hein? Parce que la grâce, nous l'avons déjà reçue. Mais lorsque nous tombons dans les péchés, nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu, mais nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que le salut, il est déjà en nous, nous sommes déjà sauvés. Mais nous tombons dans les péchés, nous demandons pardon à Dieu, et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas le salut puisque nous l'avons, mais nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. C'est ça. Et c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon à ces choses-là. Dieu, il nous pardonne. Vous en souvenez, Pierre, ce qu'il avait dit au Seigneur, « Combien de fois dois-je pardonner à celui qui m'a offensé ?»« Sept fois !» Et c'est là que le Seigneur a dit, « Pas sept fois, mais 70 fois sept fois. » Ça, c'est pour nous montrer la bonté de Dieu. Et David, il avait que ça. Il avait que ça dans sa vie, des problèmes. Et au verset 3, il disait, « Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand formerai-je des plans dans mon âme ?» Voilà l'état, l'agitation dans laquelle on peut se trouver. Chacun de nous peut se trouver lorsqu'il y a ces choses qui nous arrivent. Hein? Mais lorsqu'on est comme ça, il faut répéter encore une fois, David il avait dit, je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi, pour trouver dans ta parole, dans la parole de Dieu, on trouve de la consolation et du soutien. Et il y a ce verset dans Jérémie, dans Lamentations 3, qu'il dit quoi? Il dit, il est bon d'attendre les secours de l'Éternel. Pourquoi il est bon d'attendre? Parce qu'on sait qu'il va venir. Vous en souvenez, les sœurs à Lazare? Viens, ton ami est malade, il est presque à mourir. Et Jésus, il a dit, et oui, on va y aller. Et il est resté deux jours. Et il a été, il a dit, ah, Lazare est mort. Il a dit, conduisez-moi dans l'or. Il a dit, ah, si tu avais été ici. Hein. Oui, si tu avais été, mais moi, je suis là. Maintenant, je suis là. Et c'est là qu'il est intervenu. Car le Seigneur, chaque fois qu'il intervient dans notre vie, il le fait pour sa propre gloire. Hein. Parce qu'une fois qu'on a reçu, qu'est-ce que c'est qu'on fait? C'est des actes de remerciement qui doivent monter, des actions de grâce. Et c'est ça qu'il faut dire comme Jérémie, il est bon d'attendre en silence. En silence. Un peu la même chose qu'il avait dit Moïse au peuple, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Hein? Derrière, il y avait les Égyptiens et devant, il y avait la mer Rouge. Et les gens, ils criaient, « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Taisez-vous et regardez la puissance de Dieu. » Dieu, il est toujours là. Hein. Des fois, on doute de cela. Mais Dieu, il ne laisse pas ses promesses. Toutes les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, ils vont se réaliser. Hein, vous vous souvenez, Pierre, tu l'as vu Jésus marcher dans l'eau. Il a dit, si c'est toi, dis-moi de... Il a dit, viens. Et il a mis les pieds sous l'eau. Hein. Sauf qu'il a regardé autour de lui. Mais lorsque le Seigneur il nous dit quelque chose, il faut compter que sur lui. Hein. Sûrement, Pierre il a commencé à regarder à droite, à gauche. Et il a commencé, pourquoi? Parce qu'on a enlevé nos yeux de celui qui seul il peut nous apporter la délivrance, la grâce. Voilà pourquoi c'est très important. Est-ce que nous avons confiance dans cette bonté de Dieu? Chaque fois que nous tombons dans le péché, et nous tombons dans le péché, hein, n'écoutez pas ce qu'ils disent, oui, en tant que chrétien, on ne pêche plus. Hein. Ce n'est pas vrai. Jean, il nous le dit, si nous péchons, hein, les nous, c'est les chrétiens, hein, hein? Et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, c'est que nous péchons. Hein? Mais chaque fois que nous péchons, nous avons besoin de cette bonté de Dieu qu'il va se manifester. La question que je me pose à moi-même et à vous aussi, c'est que est-ce que je perçois, est-ce que vous percevez la bonté de Dieu dans notre propre vie? Déjà ce matin, si vous êtes là, c'est la bonté de Dieu qui a fait tout ça. Hein. C'est pas, je suis en pleine santé et tout ça. Non, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui fait tout ça. Et nous devons remercier le Seigneur de ça. Comment remercier le Seigneur? Bon, et la suite du verset, il nous le dit. Il dit, à cause de cela, à cause de ta bonté, il dit quoi? J'ai de l'allégresse dans mon cœur. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Hein? Lorsqu'on a placé notre confiance en Dieu, automatiquement, on voit Dieu intervenir. Et une fois qu'il est intervenu, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Mais il y a de l'allégresse. Que Dieu, il tient ses promesses. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Je suis joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu, je sais que Dieu, c'est un Dieu fidèle qui garde ses promesses. Et donc, il est intervenu et je suis dans la joie. Et je suis dans la joie. Hein? Et vous connaissez le philosophe, ma prononciation, c'est un peu, hein? En plus, c'est de l'allemand. Hein? Nietzsche, voilà. Hein? Hein? Il avait dit un jour, son père, il était pasteur, hein? Et pourtant, vous voyez le cheminement qu'il a fait, cet homme-là, hein, hein, un athée. Et il disait, voilà ce qu'il a dit, j'ai vu cette phrase ce matin, voilà pourquoi je l'ai. Hein, il ne voulait pas devenir chrétien Parce que, en observant les chrétiens de son entourage, il leur voyait à tous une mine tellement triste, une tête d'enterrement, que cela ne lui donnait pas du tout envie de devenir comme eux. Hein? Et comme on dit, hein, on peut être un triste chrétien, mais aussi un chrétien triste. Vous choisirez quoi, vous? Hein, il y en a beaucoup de tristes chrétiens, un peu. Moi, je suis un peu triste chrétien. Je n'ai pas toujours le sourire aux lèvres. Hein. Mais être un chrétien, un triste chrétien, c'est pire que d'être un chrétien triste. Ça veut dire qu'on ne suit pas la parole de Dieu. On peut être triste, mais avoir la joie dans notre cœur. Mais nous devons l'exprimer, cette joie. Voilà pourquoi cet homme, et pourtant son père, il était habitué à voir des chrétiens, mais ils avaient tous l'air triste. Il a dit, je ne vais pas devenir comme eux. Hein. Et Paul disait à Philippe, vous savez, l'épître aux Philippiens, il est appelé l'épître de la joie. Car presque à chaque chapitre, Paul, il parle de la joie de l'Éternel. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Et lui, il était en prison. Et c'est pas les prisons d'aujourd'hui, hein. Avec télé, canal, et je sais plus quoi, hein. Non, là, c'était attaché. Dans des endroits froids. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux autres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et lui, il se réjouissait en parlant aux autres. Lorsque les murs se sont écroulés, vous en souvenez dans le livre des Actes, le gardien, il a vu ces murs qui s'écroulaient, tout le monde, il partait, il était prêt à se tuer, il a dit non, 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 ne le fais pas, on est là. Il aurait pu prendre ses pieds, se barrer, comme on dit. Non, il a dit, on est là, ne t'inquiète pas. Il avait qu'une seule chose dans la tête, c'est montrer cette joie que le Seigneur il avait mis dans son cœur d'accomplir sa parole. Hein? Et il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, et si c'est bien, il faut bien lire. Hein? Il dit, réjouissez-vous. Mais comment se réjouir? Dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils ne cherchent qu'une seule chose, à se réjouir. Mais pas dans le Seigneur. Dans les choses du monde, dans les choses qui sont opposées à Dieu. Mais Paul il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, dans les choses du Seigneur. C'est là qu'on retire la vraie joie. Parce que vous savez, si on ne se réjouit pas dans le Seigneur, cette joie que nous ressentons sur les moments, c'est une joie passagère. Vous n'avez pas expérimenté, vous pouvez voir vivre une soirée d'enfer. Hein? Pas dans le Seigneur, hein? Mais le lendemain. Mais dans le Seigneur, c'est une joie constante qui ne passe pas. Et Néhémie, il a dit, la joie de l'Éternel est notre force. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit ce Dieu qui tient ses promesses, qui nous donne ses assurances, nous devons nous réjouir. Et il dit, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Hein? Et Néhémie, ils étaient avec son peuple, venaient de rentrer de la déportation, c'était pour reconstruire les temples, pour reconstruire les murs de Jérusalem. Et dans le pays, une fois qu'ils ont été déportés, il n'y avait pas de juifs. C'était des gens qui avaient été amenés d'autres pays, d'autres nations pour habiter la Palestine. Et ces gens-là, en voyant qu'ils voulaient reconstruire les temples, reconstruire Jérusalem, ils mettaient, comme on dit, des obstacles. Et alors, il dit, la joie de l'Éternel, ne soyez pas tristes, la joie de l'Éternel est notre force. Et alors, ils se sont mis dans une main, ils avaient un marteau, par exemple, sinon une pioche, et dans l'autre, ils avaient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu, il avait promis, il les avait fait rentrer pour cela. Alors, il disait, il est avec nous. Et c'est notre joie. Donc, n'oublions pas d'être joyeux. Mais dans le Seigneur, ne soyons pas avec l'RBA, je crois, on rigole. Mais joyeux dans le cœur, parce qu'on a le salut du Seigneur. Et ce verset-là, 6, il continue. « J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Pourquoi ? À cause de ton salut. À cause de ton salut. » La raison précise de l'allégresse, de la joie, c'est quoi ? Dans le cœur de David, c'est qu'il avait la joie du Seigneur. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas la joie du Seigneur, on ressent tout ça. David lui-même, lorsqu'il est tombé dans les péchés, il a dit, « Redonne-moi la joie de ton salut !» Car lorsqu'on est dans les péchés, on a perdu cette joie, cette communion avec Dieu. Mais c'est la joie du salut des dieux. Et vous savez quelle est la signification du mot Jésus ? Salut. Pas salut, les saluts. Et c'est ça, notre pensée, comme on l'a vu ce matin dans le tabernacle, c'est Jésus. Et nous devons nous réjouir de ce salut que Jésus il nous a donné. Vous savez, on est des pécheurs. Et cette joie, cette allégresse, nous pouvons la retrouver parce que nous sommes des... Avec les péchés, nous devons être tristes. Mais les gens, ils n'ont aucun ressentiment de cela. Aujourd'hui, les gens du monde, ils ne pensent qu'à se réjouir. Mangeons et buvons. Ils ne pensent pas à l'éternité. Mais Jésus, il est venu pour cela. C'est le salut, il est venu nous appeler. C'est un privilège immense de savoir qu'il peut arriver n'importe quoi et que je suis sauvé. C'est un privilège immense. Car si vous n'avez pas cette assurance, si nous ne dites pas « je suis sauvé », voilà pourquoi des gens, nos chrétiens, des fois, ils me disent « et si tu meurs, où tu vas ?» Mais nous, en tant que chrétiens, vrais chrétiens, nous disons « je monte au ciel, je vais au paradis. » Oui, mais t'es pas un peu orgueilleux ? Ben non, je suis pas orgueilleux, c'est Dieu qui me le dit. C'est Dieu qui me le dit. Donc c'est Dieu qui me le dit. Donc je crois à ce que Dieu, il dit. Et c'est ça que nous devons nous réjouir de ce salut. Et nous devons faire tout notre possible pour pouvoir accorder aux autres la joie de ce salut. Comment ? Mais en leur apportant la bonne nouvelle. Le Seigneur, avant de s'en aller, il a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples. Faites des disciples. Tous ceux qui se tournent vers Jésus, ils doivent devenir des disciples. C'est ce qu'il a dit Paul à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, dis-le à des gens fidèles, afin qu'eux aussi ils puissent aller et ils puissent l'apporter à d'autres gens. Voilà pourquoi faites des disciples. C'est comme si on accepte le Seigneur et on est à l'école de Dieu. C'est là que Dieu nous enseigne les choses que nous devons dire aux autres. Il avait dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez dire ou faire, car l'Esprit, il vous conseillera, il vous dira, car l'Esprit, il parlera de moi, il disait Jésus. Il ne disait pas, il parlera de lui-même, de l'Esprit, et pourtant il est Dieu, Mais il dit, non, il ne parle pas de lui, mais il parle de moi. Car Jésus, c'est comme on dit, c'est la porte, c'est celui qui fait tourner la porte, qui permet de l'ouvrir. Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. On a un problème, Jésus est là. Jésus est là. Demandez et vous recevrez. Au peuple juif, il lui a dit là aussi, le peuple juif, il demandait à l'Éternel, à l'Adonai. Et un jour, Jésus, il s'élève, il dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais demandé à mon nom. Mais à partir d'aujourd'hui, demandez à mon nom, pas à l'Éternel, le Dieu ou Adonai, non. Demandez à mon nom et vous recevrez. Vous vous rendez compte, et l'assurance que nous devons avoir dans le nom de Jésus. D'ailleurs, après chaque prière, qu'est-ce que nous disons? Dans le nom de Jésus. Nous devons le prononcer. C'est un commandement, c'est lui. Et il dit, j'ai de l'allégresse à cause de ton salut. Et donc, cette allégresse-là, comment il va se manifester? Il continue ce verset. Et il dit, je chante à l'Éternel. Cette joie, il faut la manifester. Je m'en souviens quand j'ai travaillé à Paris, hein, j'ai rentré tard la nuit, hein, alors il faisait noir. Et j'avais l'habitude j'avais un trajet à faire, hein, jusqu'à la maison à Taverny. Et là, je descendais du train, c'était une route, il n'y avait même pas de lumière à l'époque. Hein. Et alors là, je chantais. Et de l'autre trottoir, elle était passée une dame. Elle m'a dit, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Alors, il a entonné le cantique avec moi, mais moi, je partais là et elle, de l'autre côté. Je chante à l'Éternel. Le chant, c'est un moyen de glorifier le Seigneur, de le louer, de montrer notre allégresse, de le remercier. Il n'y a pas que le chant, hein. Mais il y a tant d'autres choses. Pour toutes choses, nous devons nous réjouir et dire au Seigneur, merci Seigneur, par la prière, par les chants. Les gens, ils disent, je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier. Mais alors chante si tu connais des cantiques. Hier à l'enterrement, pendant que les gens y jetaient les pétales, il y avait un monsieur à côté, il nous a dit à Roland et à moi, il a dit, et pourquoi on ne chanterait pas? Parce qu'il y avait une longue file. Hein. Je ne sais pas quelle heure ça s'est terminé. Hein. Alors, pourquoi ne chanterons-nous pas? Voilà, pour dire merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Hein, je vais chanter en ton honneur. Et le Seigneur, vous savez, il nous invite à chanter. Pas seulement ici, à l'église, hein, les dimanches matins, mais aussi à la maison. Combien d'hommes et de femmes, on me dirait, les hommes ne font pas tellement le ménage, hein, mais en faisant le ménage, chanter en repassant, mais des chants chrétiens. Hein. Hier, on est resté ici avec Roland. Alors, il y a un jeune homme, Roland, il a mis de la musique chrétienne. Hein. Il y a un tout jeune homme, là, un petit, là, quel âge il avait? 6 ans, 7 ans. Il a dit, mais t'as pas des chansons du monde? Roland a dit, non, il n'y en a pas ici. Pour vous dire à quel point, hein, dans quelle société qu'on vit, hein. Même les enfants. Hein. Ah ben ça, vous dites aux enfants, tu connais pas Jésus, il est trop connu. Hein. Mais tu connais un saint de la Seine. Mais tu lui dis, tu connais quelqu'un qui chante, hein. Alors là, elle te le dit, hein, Bruel, je ne sais pas qui, hein, ah, il le connaît. Hein. Mais il dit ici, il dit, je chante à l'Éternel. Et c'est ça que nous devons faire. Et il dit, pourquoi chanter? Nous avons de l'allégresse, nous sommes dans la joie, nous devons chanter à l'Éternel. Pourquoi? Et le verset, il continue, car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Sinon, notre traduction, c'est « Il m'a comblé des bienfaits. » Un peu dans les psaumes 23, David, hein, il dit « Ma coupe déborde. » C'est-à-dire, le Seigneur, il ne donne pas juste pour remplir la coupe, hein, Mais la coupe déborde. Des fois, lorsqu'on met de l'eau, je ne dis pas du vin, hein, lorsqu'on met de l'eau, on fait attention que l'eau ne tombe, hein, ne tombe pas dehors. Hein. Mais là, elle dit, ma coupe déborde. Hein? Et tout ça, il y a un enseignement. Hein? Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, il le fait déborder pour que les gens autour de nous, ils puissent profiter de cela. Et lui, David, il dit, pourquoi j'ai la joie, pourquoi j'ai de l'allégresse, pourquoi je chante? Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il y a une traduction anglaise. Je ne parle pas l'anglais, hein. Ne croyez pas que je parle l'anglais, mais je suis un peu comme tout le monde. J'ouvre un livre, hein, je vois la définition. Hein. Et il dit, car il a agi d'une manière bienfaisante, généreuse avec moi. Hein, avec moi, il a agi comme ça. Luther, dans sa traduction de la Bible, il dit, car il m'a fait tellement du bien. Voilà pourquoi on doit faire toutes ces choses envers le Seigneur. Car il m'a fait du bien. Hein? Car il m'a fait du bien. Et Jésus lui-même, dans Jean 7, 37 et 38, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Esaïe, appelé le cinquième évangéliste, il dit, venez manger sans payer. Hein? Jésus, il a dit, si quelqu'un a soif, mais il faut avoir soif. Hein? Soif de quoi? Soif d'avoir la vie de Dieu. Hein? Si quelqu'un a soif, hein, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il aille dans le bar, qu'il aille vers... Non, qu'il vienne à moi. Parce que c'est lui qui donne. Et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Hein, des fleuves d'eau vive, ils vont couler de son cœur. Pourquoi, encore une fois, tout ce que Dieu donne, il ne nous donne pas simplement pour assouvir nos désirs ou nos besoins, mais il va nous donner en abondance pour que les autres, ils profitent de ces choses-là. Et il dit, dans les psaumes 103 aussi, verset 2, non, de Jean 10, 10, il nous a dit, « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. » Pas seulement la vie, mais en abondance, une vie abondante. C'est ça que le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il donne, il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Quand il donne, il ne regarde pas. Ah, il a assez comme ça. Non, il donne en abondance. Parce qu'il sait que de cette abondance-là, nous devons partager tout autour de nous. Et dans les psaumes 103, verset 2, toujours David, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Petits ou grands, sont tous des bienfaits de Dieu. Et nous devons le remercier de toutes ces choses-là. Voilà ce que ces versets, ces seuls versets, ils peuvent nous apporter. Encore une fois, David, le résumé de cela, il s'est vu dans la difficulté, une difficulté qui demeurait. Et alors il a dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Alors en voyant toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est tourné vers le Seigneur, il a supplié le Seigneur. Le Seigneur, il est venu, il a donné ce dont nous avons besoin, l'aide, l'assurance. L'assurance. Et ensuite, il a écrit ce verset qui est merveilleux. Voilà pourquoi je vous ai dit de l'apprendre par cœur. Car c'est un verset qui parle très fort. À moi, il m'a parlé. Hein. Si je vous ai donné le message, c'est parce qu'il m'a fait du bien, ce message. Hein? Je peux regarder la vie différemment de comment peut-être je l'ai regardé auparavant. Hein? Et donc, il faut réfléchir, chacun de nous, à tous les bienfaits que Dieu nous donne. Et Jérémie nous l'a dit, hein, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est toujours le même, aujourd'hui, demain et après-demain. Dieu ne change pas. S'il a fait des miracles, il le fera aussi, parce que c'est le même. Combien de gens ils disent, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, Dieu faisait des miracles. Mais il n'arrête pas de faire des miracles. Chaque fois que quelqu'un se donne au Seigneur, il y a un changement de vie, une nouvelle naissance. C'est un miracle. Parce que c'est le Seigneur qui intervient. Car personne, lui-même, il peut se changer. Personne. Hein? Et donc, pour tous ces bienfaits, le Seigneur, il a besoin qu'on le loue. Encore et encore, sans arrêt, hein, et le remercier de tous ces bienfaits. Pourquoi? Car nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Parce que dire, Seigneur, je suis chrétien, hein, nous ne méritons rien. Si le Seigneur il nous donne toutes ces choses-là, c'est par sa pure bonté. C'est ça la grandeur de ce Dieu que nous servons. Et c'est en ce Dieu-là que nous devons mettre toute notre vie. Vous savez, la vie avec le Seigneur Jésus, c'est une vie merveilleuse. Oh, il y a des difficultés, mais c'est une vie merveilleuse. D'abord parce que nous savons ce qui va nous arriver. Nous savons qu'il est toujours là auprès de nous, qu'il nous écoute. Et j'espère que ce matin, vous avez pu toucher quelques brides de ce que le Seigneur il peut faire dans notre vie. Et s'il le fait, c'est parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous avons mis notre confiance en lui. Il ne fait pas la même chose envers les autres. C'est exactement la même chose qui nous arrive dans nos propres familles. S'il y a un morceau de pain à donner, on le donne à nos enfants. On ne le donne pas aux gens de la rue. On peut, hein, par une fois que toute la famille, hein, faire participer les autres. Hein, mais le Seigneur, d'abord, dans la Bible, c'est marqué, premièrement les Juifs. Hein, pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Et tous ces bienfaits, ils sont pour nous qui sommes des chrétiens. Mais il faut réfléchir. Et tous ces bienfaits ne sont pas utopiques, comme on dit. C'est des choses qui se réalisent dans la vie de tous ceux qui font confiance au Seigneur. Alors, si vous donnez votre vie au Seigneur, soyons sûrs et certains que le Seigneur il va intervenir avec tout ce bienfait. Et nous pouvons vivre une vie agréable. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.